Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes professeur en criminologie, vous êtes auteur de Tu ne tueras point qui vient de paraître chez Fayard. Et honnêtement, on se dit qu'en ce moment, il y a du boulot parce que ça tue pas mal. On va parler d'abord de ce qui se passe à Marseille. Marseille, où une opération XXL de police a été lancée hier. Elle devrait durer 3 semaines. Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sont en chemin. Ils devraient être sur place ce matin, peut-être même Emmanuel Macron lui-même, qui en tout cas, à l'heure où l'on se parle, vient de quitter l'Élysée. Le convoi prend la direction de l'aéroport de Villacoublay. Nos journalistes sont d'ailleurs dans ce convoi et nous tiendrons évidemment au courant au fur et à mesure. Alain Bauer, cette opération, ce sont donc 700 policiers et gendarmes qui sont mobilisés depuis hier. Opération Place Nette XXL. Est-ce que Marseille, c'est la matrice ?
En tout cas, c'est le lieu où a été créé par Carbone et Spirito il y a plus de 100 ans, deux criminels qui ont marqué l'histoire de ce pays. Le premier kyste criminel, le premier enracinement criminel, la première concentration criminelle qui contrôlait à la fois la ville, la police, la justice, bref, ce qui ressemble le plus à une mafia sans l'être véritablement. Et depuis 100 ans, toute une série de parrains ont pris la suite les uns derrière les autres et ont maintenu Marseille dans une situation de dépendance par rapport au crime, au stup, au caïda. Et tout est né et tout a été structuré et tout s'est exporté à partir de Marseille, puisque Marseille exporte vers la banlieue sud, Marseille exporte vers Lyon, mais Marseille exporte vers toute une série de petites et moyennes villes désormais, où les lieux de deal sont contrôlés par des, entre guillemets, Marseillais envoyés là pour les contrôler quand il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre locale.
Et au-delà de ça, il y a eu récemment Rennes, Dijon, je ne parle que du week-end dernier, où ce sont des règlements de compte qui semblent être des soubresauts même de Marseille qui s'étalent désormais sur tout le territoire. Quand je vous dis la matrice, est-ce que ça veut dire que cette opération Place Nette XXL, comme on nous la vend du côté de Beauvau, peut être efficace ? Est-ce que si on s'attaque au cœur, effectivement, du trafic de drogue, alors un peu de cette criminalité qui s'installe sur tout le territoire pourra diminuer.
D'abord, il serait étonnant de ne pas s'attaquer au trafic de stupéfiants. Le problème, c'est qu'entre les opérations coup de poing et la saturation du terrain, il y a un mouvement d'un moment qui ne permet pas de gérer sur le long terme le retour des opérateurs criminels. D'ailleurs, on voit bien que ce mouvement est tournant. Dès que la police est partie, se réinstallent les dealers, les divans, les caddies, les bennes à ordures pour empêcher l'intervention rapide des policiers. Et la saturation, c'est la capacité à ce qu'une opération coup de poing dure suffisamment dans le temps pour créer les conditions d'une crise économique et financière du marché du deal, ce qui se traduit en général par des émeutes et des troubles. Car ce marché économique a aussi une réalité. 3 à 500 000 personnes en France en vivent.
Alain Bauer, 4 000 forces de l'ordre pendant 3 semaines. Est-ce que là, pour le coup, ça peut être cette durée dont vous parliez à l'instant ?
Oui, mais c'est 4 000 forces de l'ordre pendant 3 semaines tournantes. La question de la saturation, c'est quand ça ne tourne pas. C'est toute la problématique qui nécessite une reprise en compte totale de la vie d'un quartier, d'une cité, d'un espace. Je rappelle qu'à Marseille, les quartiers sont dans la ville et pas hors la ville, ce qui est un peu différent, par exemple, de ce qui peut se passer à la Courneuve, à Aubervilliers ou ailleurs.
Qui sont plutôt les pourtours
voilà,
de Paris.
Là, on est dans un processus où c'est dans la ville. Et donc, dans la ville, c'est reprendre totalement ce qu'on ose appeler la politique de la ville, qui en fait est une politique d'esthétique, qui vise à...
On s'est occupé de quoi
On s'est occupé plus des logements que des habitants.
De restaurer des logements plutôt que de savoir qui on met dedans et comment est-ce qu'on les aide et comment on les accompagne.
La Cour des rapports qu'on devrait mieux lire, qui sont très durs, très violents, très désagréables, très critiques sur la politique de la ville, rappelant qu'on s'occuper du bâti, c'est pas s'occuper des habitants. Et que donc, de ce point de vue-là, il y a toute une série d'éléments qui doivent être pris en compte, qui ne le sont que peu. Très récemment, par le président de la République sur et le maire de Marseille sur cette opération de revitalisation marseillaise qui a beaucoup de sens.
L'opération Marseille en grand.
Marseille en grand, mais en attendant, car tout ça prend beaucoup de temps, comme vous avez pu le constater, les opérations de coup de poing sont nécessaires pour restaurer l'image de l'État et la capacité à perturber provisoirement le trafic. Pour le perturber de manière durable, il faut résoudre trois problèmes essentiels: les dealers, les producteurs et les consommateurs. Or, chaque fois, et comme la commission d'enquête du Sénat vient de le démontrer en allant à Marseille, en écoutant les opérateurs de la lutte contre le trafic de stupéfiants, on agit toujours que sur une ligne de nage et pas les trois, avec relativement peu de cohérence et pas grand-chose sur le consommateur, notamment dans la partie où on doit prendre en considération que c'est un malade et pas seulement un criminel. Et le mélange des genres de la loi de 1970 qui nous a été imposé à juste titre par les États-Unis parce que nous exportions massivement vers chez eux des produits stupéfiants essentiellement liés à la cocaïne nécessite nécessite une très importante modification de la manière dont on traite la demande et pas seulement l'offre.
Dealer, producteur, consommateur. Mais je vous repose la question, Alain Bauer. Est-ce que cette opération-ci, elle est effectivement très largement médiatisée? Je le disais ce matin, on verra Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti sur place, qui vont nous donner des chiffres, qui sont des chiffres impressionnants. On se dit 4000 membres des forces de police. Est-ce que ça peut être efficace?
Ça peut avoir un effet provisoire, mais ça n'en aura pas dans la durée s'il n'y a pas un effet de saturation. S'il y a un effet de saturation, alors le problème deviendra social et politique, et pour l'instant, il n'est pas envisagé du point de vue de ce qui est l'élément majeur. S'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafic.
S'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafic. Est-ce que les consommateurs aujourd'hui sont véritablement sanctionnés au-delà de l'effet d'annonce?
C'est surtout que je ne pense pas que la sanction soit la réponse à un problème médical. Je veux dire, le problème, il est sanitaire, il est social, il est médical, il n'est pas systématiquement criminel. On ne traite pas des bons sujets avec les bons outils. Il faut prendre en considération qu'il y a trois sujets. La production, en France, on produit de plus en plus de produits, et de synthèse, et de produits cannabiques ou dérivés du cannabis, avec des taux de concentration en THC qui sont sans aucune mesure avec ce qui existait dans les années 70. Donc il y a un problème de production. On arrive à identifier les lieux de production par la surconsommation électrique ou la surconsommation d'eau, par exemple. Il est assez facile, si on le souhaite, de commencer à éradiquer les
lieux. J'ai envie de dire, tout est dans le si on le souhaite, non? Est-ce qu'on s'en donne les moyens? Est-ce qu'on y va?
Pour l'instant, c'est pas traité comme tel. Ensuite, il y a les problèmes.
Donc, on va pas tarir la source.
On devrait, mais c'est pas le sujet. D'ailleurs, on a des discussions très compliquées sur le CBD, dont on ne sait plus très bien ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ce qui devrait l'être, ce qui ne devrait pas. Moi, je dis simplement qu'il y a un problème de cohérence en la matière et que pour l'instant, les politiques de prohibition ont produit l'effet exactement inverse à celui recherché. Une politique de prohibition, c'est moins de produits de mauvaise qualité plus cher. Là, on a plus de produits de meilleure qualité moins cher. Donc, on a un problème, c'est que ça ne marche pas. Et donc, de ce point de vue-là, la guerre à la drogue nécessite d'être revisiter, parce que la guerre à la drogue, ça ne marche que pas des masses. La police, ça marche un peu mieux. Et la police, elle doit traiter à la fois la production, la distribution, ce qu'elle fait, mais avec des opérations coup de poing qui ne sont pas suffisantes dans le temps.
Qui ne
sont
que trop
ponctuelles. Et puis le problème du consommateur qui n'est pas traité du tout, parce qu'on ne le pense que comme un délinquant, alors qu'il faudrait le traiter comme un malade. Et de ce point de vue-là, il y a un immense travail à faire, je le dis et je le répète, pour créer une réduction massive, comme on l'a fait pour le tabac, par exemple, pour des raisons, ou l'alcool, même si on a toujours des dérivatifs, de la contrebande, etc. Mais on a un effet réel de réduction des risques. Il faut le faire de manière très déterminée. Monsieur Liechtenstein le faisait il y a 40 ans, tout le monde l'a oublié, mais il était bien seul. Et ben aujourd'hui, on n'est pas beaucoup plus
nombreux.
Mais
Alain Bauer, vous le savez, et ce serait l'objet d'une autre interview, mais officiellement, comme la drogue est interdite, il n'y a pas de politique d'avance comme il y a avec le tabac ou avec l'alcool. On n'en parle pas parce que c'est officiellement interdit.
Oui, mais on devrait, comme on devrait le faire sur la prostitution, notamment la prostitution des mineurs, sujet qui apparaît comme un fait divers de temps en temps, mais sur lequel il y a relativement peu de politique sociale. La politique, il faut bien considérer que la politique pénale, c'est la voiture balai de la société. Le consommateur, la victime, les prostituées sont des gens qu'il faut savoir traiter d'une manière non pénale ou de manière aussi non pénale.
Est-ce que, Alain Bauer, Marseille s'exporte? Lyon, oui. Dijon, Rennes,
partout.
Avignon,
la
Nîmes.
Banlieue sud.
Est-ce que tout ça, désormais, ce sont les suites d'une sorte de grande toile d'araignée dont le cœur serait Marseille?
Oui, mais depuis 50 ans. Je veux dire, les affaires de la banlieue sud, Jacky Lemat, tous ces grands parrains criminels se sont toujours exportés hors de Marseille. Les corsos marseillais ont été un champ de développement du crime organisé structuré en France, tenant et enraciné dans les réseaux criminels de la ville et se structurant autour de l'ensemble du processus, de la boîte de nuit au restaurant, en passant par le secteur touristique et autres, par la corruption et le racket, donc c'est des phénomènes bien connus, la prostitution, mais surtout, il y a eu un événement, Farid Berhama, il y a une quarantaine d'années, qui a provoqué deux événements en même temps. D'abord, il s'est indépendantisé, c'est le Spartacus des cités. C'était une petite main des cités qui a décidé qu'il allait devenir grand tout seul. Et donc, c'est la création du Qaïda où il s'est expatrié de son contrôle. Il a été lui-même abattu. On l'appelait le rôtisseur pour vous donner une idée de la manière dont il finissait ses victimes. Et depuis, il y a un taux de rotation des caïds à Marseille très élevé et il n'y a plus de parrains à Marseille, de vrais parrains. Le dernier était Jean-Jacques Colonna, qui était le juge de paix du milieu. Il est mort à peu près la même année. Alors, dans un accident de voiture, ce qui est un peu ridicule pour un parrain de la mafia, ou entre guillemets, du crime organisé. Mais depuis, il y a une guerre de sécession, une guerre de succession à Marseille qui ne s'est jamais terminée. Et donc, non seulement elle ne s'est pas terminée sur place, y compris dans le milieu corso-marseillais, hein, la Corse n'est pas épargnée par cette affaire, mais elle s'est étendue à toute la région sud, puis elle a exporté vers Lyon et la banlieue sud, ce qui est le cas depuis 40 ans, puis elle a commencé à s'étendre sur d'autres espaces, Rennes, mais aussi Montpellier, la zone d'Avignon, et également, on le voit désormais, une partie de l'ouest de la France et peut-être même une tentative de remonter vers Dijon, Belfort, etc. Donc on commence à avoir des stigmates un peu partout, soit parce qu'ils ont été formés par les Marseillais, soit parce que ce sont des Marseillais exportés pour prendre le contrôle des lieux de deal et éviter une trop grande connaissance des services de police avec des mouvements relativement tournants. C'est l'effet narco-TGV.
Alain Boer, narco-TGV, je voudrais qu'on parle également de ce qui s'est passé à la Courneuve et puis qu'on évoque la question des RICS qui sont en grande augmentation. La préfecture de police de Paris qui parle du nombre de blessés et de tués qui ont bondi de 25%. Mais d'abord la Courneuve, puisque dans la nuit de dimanche à lundi, le commissariat de la Courneuve a été pris pour cible. Quand on regarde les images, c'est une attaque véritablement organisée, attaque au mortier de feu d'artifice. 4 jours après la mort à Aubervilliers d'un jeune homme de la Courneuve, il y a eu une cinquantaine d'individus qui s'en sont pris au commissariat, qui a été véritablement pris pour cible, avec les policiers qui ont été bloqués par des cocktails Molotov, des jets de pierre, des poubelles incendiées, des tirs de mortier. Ils ont réussi à rétablir le calme. Est-ce que ça n'était que ponctuel? Est-ce que ce sont, comme vous dites, des soubresauts?
Alors ça, on ne sait jamais. En général, une émeute, entre guillemets, après la mort d'un jeune homme, pour réel supposé, dû à... Alors là, il n'y a pas de doute, hein, il s'est encastré dans un véhicule de police de la Courneuve, à Aubervilliers.
Alors attendez, vous savez quoi? On va aller regarder les images. Vous dites qu'il n'y a pas de doute.
Sur les images, en effet, dans le véhicule de police.
Les images sont effectivement très parlantes. Je voudrais qu'on puisse les regarder et les commenter surtout ensemble, parce qu'elles ne sont pas du tout anodines. Sur ces images, et je vous le décris aussi pour ceux qui nous écoutent à la radio, on voit deux jeunes sur un scooter qui avancent, une voiture qui fait une embardée pour éviter un taxi. Cette voiture qui fait cette embardée, donc, et la moto s'encastre de manière frontale. Le conducteur de ce scooter est mort sur le coup. Son passager blessé. Le conducteur de ce scooter, il était en réalité en train de fuir d'autres policiers à qui il avait refusé une demande d'obtempérer. Refus d'obtempérer, donc. Et dans sa fuite, il s'est donc encastré dans cette voiture. Vous dites, il n'y a pas de doute, effectivement, on a les images. Pour autant, il y a eu une réaction notamment politique, d'abord de Philippe Poutou qui a dit que ce jeune avait été tué, puis alors plusieurs jours après les faits, hier soir, de députés La France Insoumise, notamment Antoine Léaumont, qui dit que la police a tué, le mot tué est utilisé, tué un jeune homme de 18 ans en lui rentrant dedans avec une voiture est un homicide. La colère de la Courneuve n'est pas sans cause. Encore une fois, la police a tué sans être en situation de légitime défense.
Alors, d'abord, un jeune homme est mort et un autre est grièvement blessé. Donc, voilà. Deuxièmement, les images montrent ce qui a été l'effet inverse à l'effet Naël. Dans ce cas précis, elles montrent un accident et pas un comportement parfaitement inapproprié d'un policier dont l'administration...
Naël, on rappelle effectivement que c'est ce refus de tempérer, mais ce policier, ces deux policiers qui suivent et le policier qui tire et qui tue Naël.
Et qui se met surtout dans une situation de danger pour lui-même et donc de provoquer accidentellement, on le suppose, le tir en question. Mais au-delà de ça, l'image est parlante et elle doit marcher dans les deux sens. Le problème d'une partie de la classe politique, c'est qu'ils sont tellement obsédés par l'idée de la pensée unique de la dénonciation, parfois légitime et parfois pas du tout, de l'activité des services de police. C'est un problème. Non, le vrai problème, il est que, un, nous n'arrivons toujours pas à réviser ce que sont deux processus policiers qui posent problème. Le contrôle d'identité, dont les policiers eux-mêmes savent qu'ils ne servent à rien, dont les politiques savent qu'ils ne servent à rien, mais dont ils ne savent pas comment se débarrasser sans montrer leur faiblesse et leur mollesse.
Vous, Alain Boëtt, techniquement parlant, ça ne sert à rien. Vous dites, au fond, ce contrôle d'identité régulier, comme ça, aléatoire sur la voie publique, ça ne sert à rien, il faudrait le supprimer.
Oui.
Purement et simplement.
Oui, il faudrait
n'arrêter
le conserver.
Il y a un doute.
Voilà. J'ai eu la même chose quand je suis le conseil de la police de New York sur le terreau, mais j'ai vu la problématique du stop and frisk, qui est le contrôle d'identité américain. Un juge a décidé qu'il fallait arrêter parce qu'effectivement, il devenait n'importe quoi et n'importe comment. Ça n'a pas traumatisé l'activité policière à New York. Ce qui l'a beaucoup plus traumatisé, c'est Black Lives Matter ou les effets de la Covid.
Par leurs propres agissements.
Ou la surimmigration transférée par la Floride ou le Texas sur la ville de New York pour bien montrer qu'il fallait...
Donc en effet, c'est refus d'obtempérer. Et là, en l'occurrence,
c'est la course-poursuite qui pose problème. Par exemple, aux États-Unis, dans la plupart des pays, il est interdit la course-poursuite en ville. Totalement. On dit on prend la plaque et on l'arrêtera plus tard. Cette question mérite d'être revisitée. Ce sont des doctrines policières. Les policiers là font ce qu'on leur dit de faire et ils le font dans la manière où ils le peuvent. On voit bien d'ailleurs que dans ce cas précis, c'est pour éviter un autre véhicule que les policiers font cette embardée et que le crash est malencontreusement inévitable. Mais en tout état de cause, la course-poursuite elle-même initiale devrait être désormais revisitée. On a modifié la doctrine du maintien de l'ordre à juste titre. Pas encore suffisamment, mais ça a bien progressé. On a modifié un bout des autres doctrines policières. Il faut toutes les remettre à plat. Le maintien de l'ordre, c'était très bien, mais la police du quotidien, les BAC, les brigades d'anticriminalité, la police de la nuit, la police du contrôle d'identité et la police de la course-poursuite devraient être mises à plat entre techniciens d'un côté et opérateurs de l'autre. C'est pas un sujet grand public, je le comprends bien, mais ça nécessite enfin d'écouter les agents du terrain. Quand on discute avec les policiers des BAC, les BAC-eux. Quand on discute avec les gens qui sont sur le terrain, ce qui sont en partie mes élèves ou mes étudiants, et qu'on revient sur leur expérience, ils ont beaucoup d'excellentes idées que leur hiérarchie, pour des raisons mystérieuses, n'écoute jamais. Et ce ne sont pas des idées fascisantes, répressives, etc. Ce sont des méthodes opérationnelles, claires et
revoir la stratégie. Alain Boëtt, cette question aussi des RICS, puisque ce sont les chiffres qu'a donné la préfecture de police de Paris hier. Le nombre de blessés et de tués a bondi respectivement de 25% et de 33% entre 2022 et 2023, alors que le nombre de faits est quasi stable. En fait, ce qui change, c'est que désormais, il y a des couteaux.
Alors, les couteaux, c'est le surinage, ça date des Apaches il y a 100 ans. Hein.
Bien
sûr. Les casques d'or, vous en ferez un docu-fiction.
Mais on les voyait un peu moins systématiquement dans la poche des jeunes.
Si, au contraire, c'était leur élément d'affirmation.
Que nous raconte la préfecture de police ?
Non, ils ont raison sur le long terme. C'est-à-dire que nous, on voit toujours les choses hier, avant-hier, la semaine dernière, et puis le reste n'existe pas.
En l'occurrence, 2022-2023.
Voilà, mais dans la réalité, nous avions réussi, ce que j'explique d'ailleurs dans mes ouvrages, les uns et les autres, c'est qu'on avait réussi à domestiquer le crime et la violence. On est passé de 150 homicides pour 100 habitants à 1,2 en 4 siècles, 4 à 5 siècles, c'est pas mal. Sauf que depuis 20 ans, on a une reprise de la violence physique tout à fait considérable qui s'est accélérée au cours des 10 dernières années et qui ont amené 2023 à être la pire année qu'on ait jamais connue en homicide, tentative d'homicide, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, bref, tous les indicateurs de la violence. Parce qu'il n'y a plus de respect, ni de la règle, ni de la médiation, ni d'aucun outil qui ferait qu'on peut se parler avant de se frapper. Et donc ce problème-là, qui est l'année 2023, et qui justifie tout à fait ce que dit la préfecture, c'est qu'on a eu une baisse de cycle considérable, suivie d'une reprise de cycle par la violence à un niveau d'une intensité et d'une quantité qu'on n'avait jamais connue, puisque sur l'ensemble de l'outil statistique, 2023 est la pire année depuis 50 ans.
La vie n'a-t-elle plus de valeur ?
Disons qu'elle en a beaucoup moins, d'abord parce qu'on y prête moins d'importance, parce qu'une partie de la jeunesse, et pas seulement, est désabusée et considère qu'il faut vivre intensément et tout de suite. Je dirais qu'il y a un effet TikTok de la violence, une immense intensification d'une violence immédiate, une absence totale de compréhension de ce qu'on a fait, un effondrement devant les policiers quand on se fait arrêter, des aveux quasiment immédiats, c'est pas des caïds, hein. C'est des gamins qui n'ont plus aucune conscience de la violence et de ce qu'ils font parce qu'ils considèrent la violence comme un élément de régulation qui a remplacé la loi. C'est pas l'ordre contre le désordre, c'est l'ordre contre un autre ordre.
Donc c'est une forme
et la violence est une
forme d'ordre interne.
Oui, absolument.
À ces groupes de jeunes.
Oui. C'est leur manière d'affirmation. La violence est une manière d'entrer dans la vie, c'est une manière d'initiation dans la vie, c'est une manière d'affirmation dans la vie, y compris d'affirmation d'identitaire. Et en plus, ils se filment, ils se mettent en scène, ils font leur petite télé-réalité à eux. Et donc, ça donne des effets comme ce jeune homme tueur à gages qui raconte comment il est tueur à gages. Et il est effectivement tueur à gages, mais il le raconte à tout le monde.
Il a fini par être arrêté, en tout cas celui-là. Alain Boer, merci d'être venu répondre à mes questions. Vous êtes professeur en criminologie, mais je cite surtout vos deux derniers livres. « Tu ne tueras point » chez Fayard et puis « Au bout de l'enquête ». Ça, c'est aux éditions First. Merci à vous d'être venu ce matin.